Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. Nous réalisons aujourd'hui une émission spéciale en direct de la bibliothèque de l'UFR Socle, Société, Culture et Langues étrangères, pour nous intéresser à la figure des enfants soldats dans la littérature et les arts. Pour en discuter, je suis avec Mustapha Dem, bonjour.
Bonjour.
Après un master de lettres au Sénégal, puis un deuxième master à Lille en édition numérique et imprimée de textes littéraires, vous œuvrez actuellement au centre Mersenne, à Saint-Martin-d'Air, un centre d'édition, comme assistant d'édition. C'est à l'issue de ce deuxième master que vous rédigez un mémoire sur la représentation des enfants soldats dans la littérature, plus précisément comment le langage devient une expression de l'identité et de la violence. La littérature africaine est, vous l'écrivez, très marquée par la représentation des situations sociopolitiques, entre autres la violence de la guerre, des génocides et de la colonisation. Pour représenter cette réalité, la littérature africaine a beaucoup parlé de la figure de l'enfant soldat, les enfants comme acteurs de la guerre, qui sont un véritable fléau dans le monde. Il ne s'agit pas seulement de fiction et de fait, l'UNICEF alerte sur le fait qu'on a compté entre 2005 et 2022 315 000 cas de violations contre les enfants dans les conflits en Afrique, mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Donc ça a beaucoup d'ampleur. Vous vous appuyez notamment sur trois ouvrages de la littérature africaine, Sosa Boy de Kensaro Wiwa, un roman paru en 1998, Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma en 2000 et Bête sans patrie du Zodinma Iweala, publié en 2005. Ces trois romans mettent en scène des enfants instrumentalisés au service de la guerre et plus largement d'un système politique violent. Vous écrivez que les auteurs de ces romans cherchent peut-être moins à documenter l'histoire des guerres qu'à montrer l'horreur de la guerre. Et de fait, il semble bien que les auteurs de ces livres poussent à son paroxysme la contradiction de la guerre en montrant des enfants, symboles de l'innocence et de la pureté, exposés à l'horreur. Est-ce que cette contradiction, cette première contradiction entre l'innocence et la violence, est déjà visible dans les livres et perceptible en fait dans ces romans que vous analysez ?
Alors, tout d'abord, merci pour cet accueil et aussi pour... Parler de ce sujet sur les enfants soldats qui est un thème vraiment préoccupant, comme vous l'avez si bien dit avec les chiffres que l'UNICEF nous donne et tout. Faudrait qu'on se dise déjà que ces chiffres, ce sont juste des données, mais les romans sur lesquels j'ai eu à travailler mon mémoire et tout, essayent d'humaniser ces chiffres. Alors donc, qu'on parle déjà d'enfants soldats, c'est deux thèmes un peu opposés. On parle d'enfants et on parle aussi de soldats. Donc, les auteurs jouent avec cette ambiguïté de manière très subtile, c'est-à-dire d'un point de vue déjà subjectif. Les enfants, ils racontent eux-mêmes leur histoire. C'est-à-dire que ça change un peu tout. Là, on parle déjà de victimes. Et par exemple, si on prend Agou, qui est le personnage principal de Bête sans patrie, quand il décrit un massacre ou bien quand il comprend la terreur, on voit aussi la cruauté en même temps. Là, on a une ambivalence entre victime et bourreau. Donc, je peux peut-être citer un extrait de Bête sans patrie. Quand Agou dit « Je lève bien haut ma machette, puis je vois et je crie « Strika » juste au moment quand je vais presque le découper. » Là, on voit une certaine... l'enfant, il est horrifié de par l'acte, et aussi compatissant. Le lecteur, il essaie un peu d'être compatissant avec cet enfant, parce qu'il est victime et il est bourreau en même temps.
Qu'est-ce que ça veut dire, Strika ?
Strika, c'est le personnage, c'est un des personnages dans Bête sans patrie. Donc, il essaie de parler, l'horreur de la guerre à travers un autre personnage qui est Strika.
Et justement, vous parlez de cette volonté d'inverser la figure de victime avec celle du bourreau, en tout cas de la confondre. Donc la victime devient bourreau, mais le bourreau est aussi une victime. Comment l'écriture fait valoir cette confusion entre les deux figures, de bourreau et de victime ? Par quel moyen, en fait, on le perçoit ?
Par quel moyen ? Je vais dire déjà par l'écriture essaie de montrer cette ambivalence entre bourreau et victime à travers... la déshumanisation. Et cette déshumanisation se fait ressentir à travers, par exemple, des métaphores animales. Dans les trois romans, Allah n'est pas obligé, Bête sans patrie ou bien Sosa Boy, on a une certaine, une omniprésence de la métaphore, des métaphores animalières. Comme par exemple, Agou, quand il décrit des exactions, il dit par exemple léopard, ou bien on a souvent des noms des personnages qui sont qui ont d'autres noms, comme par exemple dans L'âne n'est pas obligé, on a Johnny la foudre, la panthère. Tout cela fait partie un peu de l'écriture un peu, je vais dire, animalière. Là, on parle un peu d'une écriture un peu animalière. Et aussi, l'écriture n'essaie pas juste de déshumaniser les enfants. L'écriture essaie aussi de les réhumaniser, c'est-à-dire à travers la voix. C'est-à-dire leur façon de parler avec les fautes, les répétitions, les onomatopées. On voit ici l'insouciance de l'enfant. Un enfant, il ne sait pas parler français, il ne sait pas très bien parler. Donc, ce qui montre que, à travers l'histoire qu'il raconte, je ne sais pas comment je vais le dire, mais on est un peu attendri, le lecteur, il est attendri, quoi.
Donc, en fait, il y a une forme d'ambivalence entre une écriture qui va dénuer les enfants d'humanité avec cette animalisation et à la fois, au contraire, amener le lecteur à une forme d'attendrissement, comme vous le dites, pour ses enfants. Comment on trouve un équilibre? Comment l'écriture trouve-t-elle un équilibre entre cette ambivalence-là? Et ouais, peut-être c'est ma première question pour commencer.
L'ambivalence entre... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
Entre cette, à la fois cette humanisation et en même temps cette animalisation et cette monstruosité qui est faite des enfants.
Ouf, c'est un peu une question un peu difficile. Comment l'écriture montre cette ambivalence? Je vais dire... Quand on parle d'enfant, on a toujours l'image de l'insouciance, de l'enfant, il ne comprend pas bien, il est en danger et tout. Mais quand l'enfant raconte la manière dont il tue, par exemple, des gens, là, on ressent un peu aussi une certaine colère. C'est-à-dire que les enfants, ils sont instrumentalisés, ils sont pris comme des bourreaux. Or que non, ils ne sont pas des bourreaux, ce sont des victimes de la guerre. Donc, voilà.
Donc, cette monstruosité et cette animalisation, elle est plutôt faite par une manipulation de quelque chose d'extérieur.
Exactement.
Qui est le corps de l'armée.
Qui est le corps de l'armée, c'est-à-dire les enfants ici, ils essayent un peu de s'identifier à leur agresseur. C'est-à-dire, dans les romans sur lesquels j'ai travaillé, chaque personnage est, je vais dire, est sous l'autorité d'un chef. Et ce chef essaie de les instrumentaliser à travers, par exemple, la drogue, ou bien aussi, ils essaient de changer la manière de voir le monde. On le prend juste comme des instruments à utiliser.
Donc un modèle de son prochain, qui fait partie du corps de l'armée, cette idéalisation de l'armée, elle vient aussi avec une forme de diabolisation de la vie antérieure de l'enfant, donc de sa, par exemple de sa culture, de sa famille, etc. Est-ce qu'il y a cette forme de dialectique-là? Il y a une contradiction en fait entre l'idéalisation de l'armée et d'un autre côté une forme de diabolisation de son passé à l'enfant pour qu'il puisse rentrer dans l'armée justement.
Déjà, l'idéalisation au corps militaire, ça se fait déjà par un processus. C'est-à-dire, on essaie d'abord de détruire la famille, qui est le socle même de l'enfant. De l'enfance, on détruit sa famille, il ne va pas à l'école et tout. Et ensuite, dès que cette base elle est détruite, on essaie maintenant de changer sa manière de voir le monde. Déjà à travers les chants, c'est-à-dire dans les romans, les soldats, ils sont vus comme des héros. Or que non, ils ne sont pas des héros, vraiment. On ne leur parle pas du vécu d'un soldat. On leur parle de... je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est un peu... je ne trouve pas un peu le mot.
On ne voit pas les soldats comme des héros.
C'est-à-dire que les chefs ne montrent pas les soldats comme des héros. Ils montrent les soldats comme des héros, or que non, ce ne sont pas des héros. Ce sont juste des personnes qui tuent sans raison, juste pour des raisons politiques et tout, or que non. Et ces enfants, ils ne savent pas ça. Donc, eux, ils sont juste instrumentalisés. Donc,
donc persuadés qu'il y a...
Persuadés que le soldat, c'est un héros. Du coup, il s'idéalise à travers ce corps militaire.
Et dans les livres, est-ce qu'il est expliqué implicitement, évidemment, symboliquement, comment les enfants en viennent à combattre? Comment on en vient à être enrôlé à cet âge-là? Donc, il y a la destruction de la famille, l'héroïsation de l'armée, du corps de l'armée. Est-ce qu'il y a autre chose en plus, aussi? Est-ce que, par exemple... on va dénigrer les origines de l'enfant, ses proches?
Je ne pense pas qu'on on dénigre les origines des proches, parce que ce sont les bourreaux qui tuent la famille de la victime. Et en tuant la famille, je ne pense pas qu'ils dénigrent un peu cette famille, quoi. On enlève juste une base de ses enfants. Donc non, je pense pas...
Donc les enfants ne peuvent plus voir leur famille.
Ils ne peuvent plus voir leur famille et du coup, ils n'ont plus de repères. Mmh. Et ce manque de repères leur pousse à des exactions un peu horribles.
Et ça vient donc avec une perte d'identité. Comment ça se manifeste aussi chez l'enfant, dans les livres, cette perte d'identité?
La perte d'identité se manifeste déjà, comme je vous l'ai dit, à travers les noms des personnages. Dans Allah n'est pas obligé, on a Johnny la foudre. On a par exemple Soso le léopard. Ils n'ont plus de nom, ces enfants. Donc ce qui fait que là, on a déjà une perte d'identité. Le fait déjà de perdre un nom montre la perte d'identité. Et aussi, la perte d'identité se fait voir aussi avec l'utilisation des drogues. C'est-à-dire que la drogue, elle est très utilisée dans des guerres. Et aussi, à des moyens de cadeaux. C'est-à-dire que dès que l'enfant prend cette drogue, il est dénaturé. Il ne sait plus quoi faire. C'est pas qu'il ne sait plus quoi faire, mais cette drogue le pousse cet enfant à tuer sans raison. Et aussi, cette dénaturalisation se fait aussi à travers, comme je vous l'ai dit, avec... par exemple, l'animalisation, juste l'animalisation, autant pour moi.
Il y a quand même dans ce livre, enfin, le but de ces livres, j'ai l'impression qu'il y a quand même une visée très humaniste de dire que... Alors certes, l'humain peut faire le mal, mais de base, les enfants sont des enfants, enfin des êtres purs et qu'on n'a pas le droit de faire ça. Est-ce que vous confirmez en fait ce propos assez humaniste, en tout cas pacifiste, des romans?
Pacifiste
Pas qu'on parle de la paix, mais simplement qu'on la prône, peut-être.
Non, je ne pense pas qu'on prône la guerre. Pourquoi? Parce que quand on lit les romans, on le lit à travers le regard d'un enfant. Et quand l'enfant raconte la guerre, on se demande mais comment se fait-il qu'il en est arrivé là? Donc je ne pense pas qu'on prône un peu la guerre. On nous pousse un peu à se questionner sur les raisons pour lesquelles ces enfants sont allés faire de la guerre ou bien dans quelles raisons ils ont été enrôlés.
Oui, ma question c'est ça, c'est plutôt prôner la paix et non la guerre.
Exactement, je pense qu'on prône plutôt la paix que la guerre.
Et aujourd'hui, c'est le problème des enfants soldats, c'est un problème qui persiste encore.
C'est un problème qui persiste encore. Je pense que les médias n'en parlent pas beaucoup. On peut voir en Ukraine, on peut voir en Syrie, on peut voir en Afghanistan. Ce sont toujours des enfants qui sont utilisés comme armes. C'est un problème vraiment qui est d'actualité et il faudrait en parler beaucoup.
Et il est encore très invisibilisé?
Très invisibilisé par les médias et aussi par la population aussi.
Et pourquoi on utiliserait les enfants pour être des soldats? Pourquoi on... Quelle est en fait la raison?
La raison d'utiliser les enfants, parce que ce sont des enfants qui ne connaissent rien. Mmh. L'enfant, il ne rationalise pas, il ne se pose pas des questions, donc il est facilement maniable. Mmh. On peut changer sa manière de voir les choses, donc voilà.
Il y a une question très triviale aussi qui est celle du financement, peut-être. L'enfant est une main-d'œuvre moins chère.
Exactement.
Mmh. C'est très intéressant. On se retrouve juste après pour parler de cette déshumanisation par la destruction du langage après un extrait sonore.
Kensaru Viva, Sozaboy, Petit Minité. Roman écrit en anglais pourri, Nigeria, traduit par Samuel Milogo et Amadou Bissiri. À mon père, chef JB Viva, 1904, avec toute mon affection et toute ma gratitude. Numéro 1. Quand même, chacun était heureux dans Doukana d'abord. Dans les 9 villages, on dansait, on mangeait maïs avec ananas en pagaille et on racontait des histoires dans clair de lune. Parce que travail d'implantation a fini et les ignants poussaient bien bien, et parce que ancien mauvais gouvernement a tombé et nouveau gouvernement de militaires avec policiers a monté. Tout le monde disait que tout va aller bien à Doukana à cause de nouveau gouvernement là. Il disait que Tcherk et Dobori ne peuvent pas faire corruption dans Doukana encore. Il disait aussi que tous ces policiers qui bouffaient beaucoup beaucoup avec les gens qui gagnent problème dans le tribunal ne vont pas bouffer encore. Tout le monde était content parce que, dorénavant, même juge au tribunal Dobori va commencer à faire meilleur jugement. Les policiers sur la route vont faire leur travail bien bien. Même il y a une femme qui parlait que le soleil va briller normalement et que les gens ne vont pas mourir encore. Parce qu'il y aura médicaments dans l'hôpital et le docteur il va opérer cadeau. Oui! Tout le monde était content à Doukana. Et eux, tous étaient là chanter. Moi aussi, parce que je suis jeune et apprenti chauffeur. Ils ne vont pas trop nous embêter sur la route encore. Parce que avant, si tu veux passer permis, tu vas payer l'argent au commis qui va te donner la fiche. Et puis, tu dois payer l'argent à un autre commis qui va écrire dans le registre là. Et puis, quand tu viens avec ton camion pour la conduite, tu dois payer l'ingénieur beaucoup l'argent. Et puis, tu connais conduire, tu connais pas conduire, tu vas gagner permis. Mon patron disait que eux tous, c'est voleurs seulement. Eux tous, parce que la chose ils font, gouvernement n'a pas dit leur, c'est ça qu'il faut faire. Et puis eux tous sont là bouffer l'argent de tous nos petits-petits là. Mon patron dit ça c'est mauvais trop même. Donc nous, on était très contents quand ils ont parlé que de toute façon chose là ça va finir maintenant, qu'il y a un nouveau gouvernement de militaires avec policiers. Avant, ton camion il est plein haut, il n'est pas plein haut. Forcé tu vas donner policier 10 shillings matin et encore 10 shillings quand tu reviens le soir. Le plus pire même, c'est inspecteur Okwonko, qui était brigadier avant qu'il a gagné galon ajouté. Il a retiré l'argent de chauffeur bouffé jusqu'à il y a moyen marier 4 femmes et construire une meilleure maison au village. Même quand il a gagné inspecteur là, mon patron et moi, on est partis pour lui félicitations.
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. Je suis avec Moustapha Dem pour parler des enfants soldats dans la littérature africaine. Nous venons d'entendre une lecture de Sozaboy que vous avez réalisée, Moustapha. C'est une lecture qui nous permet véritablement de comprendre l'idée de langue pourrie dans ce livre de Saro Wiva. Le langage semble ici totalement détruit, désarticulé. On lit un français certes parlé, très oral, mais... peut-être surtout une langue en soi presque indépendante en fait, qui existe indépendamment des autres. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur ce terme d'anglais pourri dont vous parlez au tout début de l'extrait, qui est souvent d'ailleurs évoqué pour parler de Sozaboy? Qu'est-ce que c'est l'anglais pourri?
Alors l'anglais pourri de l'anglais, on va dire rotten English, c'est une langue volontairement déformée par Kensaro Viva. Ce n'est pas de l'anglais standard. Ce n'est ni du pidgin, c'est-à-dire un mélange de langues, de l'anglais et aussi de langues un peu vernaculaires. Donc c'est un peu une hybridité langagière. Et c'est un choix que opte l'auteur. Pourquoi? Parce que il essaie un peu, la langue ici devient un peu un miroir de ce qui est raconté. C'est-à-dire qu'on parle de guerre, donc forcément il faut aussi détruire la langue. Et aussi qu'on parle de destruction de la langue, cela va de soi aussi avec la manière dont un enfant parle la langue. un enfant, il ne sait pas très bien parler français. Donc, pas français ou bien anglais. Si on prend les exemples de Beast of the Nation de Isoduma Iweala ou bien Kensaro Viva. Donc, je pense que cet anglais pourri ou bien ce Rotten English, c'est un peu une manière de refléter les situations de ces pays.
Donc, parler de destruction par la destruction, finalement. Par quoi ça se caractérise verbalement, vraiment est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'anglais pourri, enfin de ce français pourri du coup qui a été traduit, comment par quoi ça peut se manifester par exemple dans certaines expressions ou quoi?
Ce français, je peux peut-être lire un exemple, comme par exemple si je vais donner un exemple. Là, quand Méné, le personnage de Sosa Boy dit mon cœur commence à couper. Goum, goum, goum. Là, on voit, par exemple, ici, on a pas une vraie syntaxe. Mon cœur commence à couper. Mon cœur commence à couper. Là, on n'a pas de préposition, on n'a rien. Là, on a un peu une destruction de la langue. Pas de syntaxe. Un mélange avec un mélange d'onomatopée ou bien aussi avec un mélange de langue un peu vernaculaire. Donc...
Sao Uiba utilise volontiers d'ailleurs des onomatopées dans cet anglais pourri. Qu'est-ce que ça donne comme effet en fait dans la lecture?
Ça donne une impression un peu immersive du récit. C'est-à-dire quand on lit Sosa Boy, on a un peu l'impression d'être dans la guerre. C'est-à-dire les onomatopées donnent un peu... donne à entendre la guerre, et non pas seulement à l'écrire ou bien à la raconter.
Quel est l'intérêt de créer une langue qui a justement sa propre logique, d'écrire avec un langage qu'on pourrait, du coup, comme je le disais, dire isolé? Est-ce que ça témoigne d'une certaine perte du sens commun aussi, un peu de... C'est-à-dire que les enfants, petit à petit, sont manipulés et perdent le sens commun des choses et en viennent à tuer leur prochain. Est-ce que la langue détruite, désarticulée, vient aussi témoigner de cette perte de sens?
La langue désarticulée va de soi. Pourquoi déjà? Parce que les enfants, ils ne vont plus à l'école. Donc cela signifie que ils ne savent plus comment parler, n'ont plus les bases et je pense que cette manière de raconter la guerre à travers une destruction de la langue donne un peu une objectivité de ce que l'enfant raconte.
On peut aussi s'intéresser aux autres ouvrages, que ce soit dans « Allah n'est pas obligé » d'Amadou Kourouma ou « Bête sans patrie », la question de la destruction du langage, est-ce qu'elle est aussi présente que dans Sosa Boy? Est-ce qu'il y a aussi cette destruction du langage?
La destruction du langage se voit très bien dans Allah n'est pas obligé de Kourouma parce que Amadou Kourouma, qui lui parle le malinké, qui est très parlé en Côte d'Ivoire, et je vais reprendre ce thème, il parle ici de malinkisation. On a un mélange de français, de malinké, et aussi de l'anglais aussi souvent. Parce que si on prend le personnage de Brahima, quand il raconte l'histoire, il utilise trois dictionnaires. Il utilise le Robert, il utilise le Larousse, il utilise aussi le dictionnaire des expressions africaines. Donc ici, on a... Et aussi, il parle aussi... Et à chaque fois, que, par exemple, quand il parle d'un mot en malinké, il donne sa définition. Donc cette discussion de langage est très visible aussi dans l'œuvre de Allah n'est pas obligé et aussi dans Bête sans patrie. Bête sans patrie, je dirais moins. Pourquoi? Parce que la traduction qui a été faite par Alain Mabankou, on ne retrouve pas beaucoup de langues parlées d'Afrique, contrairement à Allah n'est pas obligé ou bien dans Sosa Boy.
Et ce, mix de différentes langues, justement, est-ce que ça vient aussi s'articuler à une forme de violence, selon vous, même chez Kuruma et même chez Saro Uiwa?
Une violence, dans quel sens?
Dans le même sens que Sosa Boy, est-ce que Amadou Kuruma et Iweala vont venir parler de destruction par la destruction également? Est-ce qu'il y a le même, à votre avis, le même, la même volonté en fait? La même ambition?
Je pense qu'on a la même ambition. Quand on parle de gay, il faut aussi tout détruire. Donc, je pense que ces trois auteurs vont dans le même sens. Détruire la langue tout en montrant la réalité des choses, la guerre.
Et justement, on parle de destruction du langage. Pourquoi pas parler de reconstruction? Parce que finalement, ils reconstruisent un peu un nouveau langage qui est propre. Par exemple, l'anglais pourri. Pourquoi on va plutôt parler de destruction? Précisément parce qu'on parle d'une destruction par la guerre et donc du langage.
Reconstruction, je ne pense pas qu'il y ait une reconstruction ici. Pourquoi? Parce que si on voit un peu la réalité dans les pays africains, comme par exemple des pays francophones, au Sénégal, ou bien au Cameroun, ou bien en Côte d'Ivoire, la manière de parler, ce n'est pas vraiment un français standard. Ou bien si on va au Nigeria, ce n'est pas de l'anglais standard. C'est vraiment un mélange d'anglais et de langue qu'on retrouve dans ces pays. Donc je pense que c'est aussi une volonté de montrer comment le français est parlé dans ces pays et comment l'anglais est parlé aussi dans ces pays.
La question du langage, elle se pose aussi beaucoup pour la traduction, vous le disiez. Je pense surtout ici à Sosa Boy, qui est traduit donc de l'anglais. Ici, il s'agit de traduire un anglais qui est déjà déformé en un français qui doit du coup rendre cet effet déformé. Comment la traduction, est-ce qu'elle peut rendre des effets de style et de langage qui sont utilisés par Saro Uiwa?
Comment la traduction passe de cet anglais pourri à ce français pourri? Je pense qu'on a un peu... Il faudrait parler déjà des traducteurs qui sont Samuel Mulogo et Amadou Bissiri, qui sont des professeurs de langue d'anglais. Je pense qu'ils connaissent déjà la réalité des langues parlées au Nigeria. Et je pense qu'ils ont très bien réussi cette traduction. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de retrouver des équivalences, par exemple de thèmes. Je vais prendre un exemple. Par exemple, pour les onomatopées, dans la traduction de Sosa Boy, les traducteurs ont essayé de reprendre les mêmes thèmes. Ils n'ont pas dénaturé ces onomatopées. Et aussi, par exemple, dans certaines traductions, ils n'ont pas... Je vais peut-être prendre un exemple sur les gloses. Dans Sosa Boy, dans le livre original, on a 125 gloses. Et dans la traduction de Amadou Bissiri et Samuel Mulogo, on se retrouve avec au moins 95 gloses, si je ne me trompe pas. Donc je pense qu'ils ont essayé de trouver des équivalences de certains thèmes du Rotten English en français pourri.
Est-ce que au niveau de la syntaxe, c'est une question qui se pose aussi beaucoup de passer d'un anglais dont la syntaxe a été chamboulée, complètement détruite, vers un français qu'il faut aussi réaménager comment ça a été fait?
Je pense pas qu'ils aient réaménagé cette syntaxe parce qu'ils ont gardé aussi une syntaxe qui n'est pas ordonnée. Mais je pense que ce qu'ils ont vraiment gardé, c'est le sens. Ce que les enfants racontent. Et je ne pense pas que le but est de réaménager cet anglais pourri vers un français pourri. Parce que déjà en Afrique, la plupart de la population ne parle pas dans un français standard. Donc je pense que c'était beaucoup plus compréhensible d'aller dans ce sens.
Et est-ce que on parle, parce qu'on parle d'anglais pourri pour Sosa Boy, est-ce que pour les livres qui ont été écrits en français, on parle aussi d'un français pourri? Donc il y a la malinquisation
de Amadou Kourouma.
Est-ce qu'il y a un autre terme qui est utilisé aussi?
Je pense pas. De ce que je connais, beaucoup plus malinquisation ou bien... plutôt parler d'hybridité langagière.
Et selon votre expérience du coup de lecteur, est-ce que vous trouvez que la traduction peut trahir un peu le texte qui était de base en anglais? Est-ce qu'il y a une forme de trahison du texte parce que justement on ne peut pas tout rendre d'une langue à l'autre?
Alors là, c'est vraiment une grosse question, quand on parle de traduction. Je dirais que c'est une trahison, oui, mais dans quel sens? Parce qu'on ne peut pas... Il y a certains, par exemple, c'est un proverbe africain qu'on essaie de le traduire en français. On perd la nature du sens vraiment de ce qui veut être dit.
On perd son efficacité aussi.
Donc, on a... Je pense que traduire, c'est trahir. Mais il faudrait se poser la question, comment il a été traduit? Est-ce que le sens vraiment de ce qui est traduit reste? Donc je pense que oui, là, il n'y a pas une trahison. Parce que les traducteurs, ils ont bien réussi à faire entendre la voix de l'enfant soldat. Il travaille en français pourri. Donc je pense que non, ils ne trahissent pas aussi.
Est-ce que, au contraire, vous pensez aussi que la traduction peut faire gagner d'un côté? C'est-à-dire qu'on retrouve en français ce qu'on ne retrouvait pas en anglais, par exemple? Dans certains cas, pas dans tous, mais est-ce que parfois on peut y trouver quelque chose, par exemple un terme en français qui n'existe pas en anglais, et donc on a réussi à trouver quelque chose d'encore plus efficace que l'anglais? Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Je pense que c'est peut-être possible de le faire, mais ça dépendra un peu du sens que se fait le lecteur. Donc, je pense que c'est un peu une question très difficile.
Et cette perte du langage, est-ce qu'elle vient aussi avec cette perte d'identité dont on parlait avant l'extrait sonore? À votre sens.
Vous pouvez répéter.
Est-ce que cette perte du langage, cette confusion du langage, elle vient aussi de pair avec la perte d'identité de l'enfant qu'il peut ressentir?
Je pense que oui. Si on prend l'exemple de Strika, qui est le personnage, qui est un des personnages dans Bête sans patrie, de tout le roman, il ne dit aucun mot. Pourquoi? Parce que quand Agou nous raconte pourquoi il ne parle pas, cela est dû au fait que quand on a tué ses parents, c'est à ce moment qu'il a perdu le langage. Donc là, on a aussi une description un peu d'identité. L'enfant, il perd les mots, il ne sait plus quoi parler, il dessine juste.
Il y a une claire représentation de ce dont vous parliez, de cette perte d'identité parce qu'on perd ses parents. Qu'on perd le socle aussi.
On perd aussi le socle de la famille.
On se retrouve juste après une interlude musicale, Emmanuel Jal, War Child.
I've survived for a reason to tell my story to touch lives. I believe I've survived for a reason to tell my story to touch lives. All
people struggling down there. Storms only come for a while, then after a while, they'll be gone. Bless, bless. My father was working for the government as a policeman. Few years later, I heard he joined a rebel movement that was formed to fight for freedom. I didn't understand the politics behind all this, cause I was only a child. After a while, I saw the tension rising high between the Christian and the Muslim regime. We lost our possession. My mother's mother suffered depression. And because of this, I was forced to be a war child. Survive for a reason to tell my story, to touch life. I lost my father and mother in this battle. My brothers too perish in this struggle. All my life I've been hiding in the jungle. The pain I'm carrying is too much to handle. Who's there please to light up my candle? Is there anyone to hear my cry? Here I am, pale and dry. Born a leader's when I wonder why. Now I thought I could wanna die. I couldn't move to when you're not care. Our shame is everywhere. In our pain, what wanna gain? Wanna pray to maintain. Wanna pray to maintain. Wanna pray to maintain.
Toujours sur Campus Grenoble 90.8, on vient d'écouter War Child, enfant de la guerre. Les livres dont vous parlez, Mustapha, ces livres sont écrits à partir du regard de l'enfant. L'écriture donne la parole à des enfants, ce qui signifie qu'on a le point de vue de témoin aussi, même en tant que lecteur. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce regard enfantin sur la guerre? Qu'est-ce qu'il vient apporter à ce témoignage?
Déjà, ce témoignage... Il apporte un peu un regard innocent de l'enfant. Pourquoi ? Parce que quand un enfant est dans la guerre, déjà un enfant il ne comprend pas tout. L'enfant ne rationalise pas, l'enfant ne se pose pas des questions que se poserait un adulte. Donc je pense que déjà ça nous montre un peu l'innocence de l'enfant. Quand un enfant raconte la guerre, ça nous montre son innocence, ça nous montre aussi l'émotion brute. C'est-à-dire, il n'est pas que victime, il est aussi bourreau. Quand l'enfant nous raconte comment il tue une personne, on est effrayé, on se pose des questions, on est attendri aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans ces trois romans.
À la fois ce regard innocent... Il est mêlé à un regard qui devient peut-être de plus en plus lucide à mesure que la guerre avance et à mesure que les enfants sont enrôlés dans la guerre, peut-être.
Exactement. Je vais même dire que des trois romans, Alain n'est pas obligé ou bien Sosa Boy, je vais dire que dans Bête sans patrie, le personnage il est très lucide. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il commet un crime, il se pose la question... pourquoi je le fais, est-ce que je suis méchant. Donc ça nous montre aussi que il y a une certaine lucidité de l'enfant. Je vais peut-être prendre un exemple dans le roman. Par exemple, quand il dit « D'ailleurs, si je fais toutes ces belles choses avant la guerre, est-ce que je suis méchant ?» Ça nous montre déjà que l'enfant, il sait qu'il commet des crimes. Mais il se pose aussi la question « avant que je n'arrive dans la guerre, j'étais un enfant innocent. » Donc ça nous montre un peu, comme on l'a si bien dit depuis le début, une ambivalence entre victime et bourreau. Donc il est très lucide, Agou. Comparé à Méné, qui raconte la guerre un peu naïvement, donc voilà.
Et mettons-nous dans la position du lecteur, qu'est-ce qu'elle apporte cette lucidité au lecteur aussi pendant la lecture? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire aussi de la guerre?
Qu'est-ce qu'elle vient nous dire de la guerre? Je pense que pour le lecteur, il va se poser la question, c'est vrai que cet enfant, il est bourreau, il tue des gens. Mais il garde une certaine lucidité, donc ça signifie qu'il est la victime. Donc on devrait se poser des questions, comment les fait sortir de cette guerre? Je pense que c'est vraiment une question un peu centrale de ces romans. Pousser le lecteur à se questionner, à voir un peu, à se poser des questions, comment l'enfant en est arrivé là. Et aussi, comment il peut sortir de là.
Et justement, cette manière de vouloir rendre lucide aussi le lecteur, elle passe par cette question du témoignage. Parce qu'en passant par les yeux de l'enfant, le lecteur lui-même devient témoin. Comment ce regard permet-il de rendre lucide le lecteur? Qu'est-ce qu'il apporte finalement ce regard-là de témoin au lecteur?
Qu'est-ce que ce regard apporte de témoin, ce regard apporte au lecteur?
Ouf. Au sens où le lecteur devient lui-même témoin, qu'est-ce que ça vient nous dire de la guerre aussi? Est-ce qu'on nous donne un point de vue, est-ce qu'on nous donne accès à un point de vue qu'on n'a jamais eu peut-être, celui du soldat, et plus que ça, d'un soldat très innocent, puisqu'il est enfant? Est-ce qu'on comprend peut-être d'autant plus la guerre? Est-ce qu'on la comprend mieux par cette
Je pense par ce regard? Exactement, je pense que vous avez peut-être déjà répondu à la question. quand l'enfant raconte la guerre, le lecteur le vit à travers, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Je suis en train de perdre mes mots. Oups.
On peut passer une autre question si vous voulez. Est-ce que aussi c'est une manière de remettre en lumière un témoignage qui a souvent été omis ou censuré peut-être, qui a été oublié, celui des enfants soldats? Est-ce que ça c'est un témoignage qu'on n'a pas beaucoup reçu?
Je pense que exactement c'est un témoignage qu'on n'a pas beaucoup reçu. Pourquoi? Parce que déjà dans les romans, quand Agou ou bien Birahima ne raconte pas juste leur histoire. Il raconte aussi l'histoire de tous les enfants soldats. L'histoire de Birahima, c'est l'histoire d'un enfant qu'on peut retrouver en Syrie, c'est l'histoire d'un enfant qu'on peut retrouver par exemple en Afghanistan ou bien en Ukraine ou bien dans autre pays. Ça devient ici un peu un témoignage collectif. L'enfant ne raconte pas juste son histoire, mais il raconte l'histoire de tous les enfants. Et dans Allah n'est pas obligé, Birahima, à chaque fois qu'un enfant meurt, il fait une oraison funèbre. C'est-à-dire, il raconte comment cet enfant soldat a pu entrer dans la guerre, comment il en est arrivé à tuer des gens. Donc, ça devient un témoignage collectif et non individuel.
La figure de témoin, elle est aussi assez ambivalente parce qu'elle semble être la plus abrupte, la plus dure à accepter, parce qu'on vit les choses littéralement, et en même temps, peut-être la plus authentique, parce que c'est la plus vraie, c'est le regard de quelqu'un, c'est le vécu de quelqu'un. En quoi cette figure de témoin, est-ce qu'elle est la plus efficace pour transmettre une histoire, l'histoire, justement cette histoire collective ?
Je pense qu'elle est très efficace, comme je l'ai dit depuis le début. L'enfant, lui, il ne rationalise pas, il ne se pose pas des questions, il dit les choses telles qu'il voit. Donc je pense qu'on entre directement dans l'univers d'un enfant. Et je pense que si l'histoire avait été racontée par un adulte, je pense qu'on pourrait peut-être se poser des questions et la manière de voir ou bien de raconter d'un adulte, il va essayer d'expliquer pourquoi, il va essayer d'amoindrir peut-être, ou bien de rationaliser ce qu'il fait. Or que l'enfant, lui, ne rationalise pas. Lui, il te dit juste ce qu'il voit, il te dit juste ce qu'il fait. Donc, c'est un peu la manière la plus performante, je pense, pour raconter l'histoire d'un enfant soldat.
On entre vraiment dans la question de la narration aussi, ici. Est-ce qu'on a vraiment accès à tout ce que pense l'enfant dans les trois romans ? Comment la narration est construite dans chacun des trois romans ?
Déjà dans Bêtes sans patrie, on a beaucoup de monologues intérieurs. On entre déjà dans la pensée de Agou. Et on entre aussi dans la guerre en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il nous raconte la guerre en même temps. Dans Alain n'est pas obligé, je pense que... c'est beaucoup plus une narration où c'est pas vraiment un monologue intérieur, il nous raconte directement ce qu'il voit, ce qu'il fait, donc ouais.
Et passer donc par cette figure du témoin, par ces monologues intérieurs aussi, c'est aussi rentrer dans une conscience et c'est peut-être aussi sortir des a priori de l'enfance. On en parle un peu depuis le début, mais j'aimerais un peu rentrer dans ce sujet. En quoi est-ce que les auteurs déconstruisent par cette dimension testimoniale, justement, la figure de l'enfant un peu innocent, un peu pur, est-ce qu'il y a une forme de déconstruction de cette figure-là et de montrer, justement, un enfant qui est capable d'être lucide aussi ?
Une déconstruction, je pense que la déconstruction, elle se fait depuis le début, mais la reconstruction, pour moi, déjà, c'est un processus. Pourquoi ? Je vais dire, il est facile de détruire, mais pour reconstruire, c'est un peu difficile. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il est atteint psychologiquement déjà. Déjà, parler, c'est difficile. Parler de la guerre. Donc, le fait déjà de raconter, ça lui permet de se réhumaniser. Donc, je pense que... Il n'y a pas juste une destruction, mais il y a aussi une reconstruction de l'enfant à travers ce témoignage.
Donc une reconstruction par le livre lui-même ?
Par le livre lui-même et aussi par le fait de parler.
Et de fait, aujourd'hui, ces trois livres, est-ce qu'ils sont aujourd'hui, entre guillemets, institutionnalisés ? En tout cas, est-ce qu'ils sont reconnus ? Et est-ce qu'ils permettent de réaliser un travail de mémoire sur les guerres, sur les événements passés, en Afrique et ailleurs d'ailleurs ?
Exactement. Déjà, pour mon travail de mémoire, je me suis basé sur ces trois romans. Et je pense qu'on peut
institutionnaliser.
Institutionnaliser, donc voilà. Et il n'y a pas que ces trois romans, il y a aussi Johnny Chien Méchant de Emmanuel Dongala. On a aussi L'aîné des orphelins de Chenomone Nembo. Je pense qu'il y a pas mal de romans qui parlent un peu de l'enfant soldat et je pense que ce sont des romans phares. Alain n'est pas obligé, Sosa Boy surtout aussi.
Et pourquoi choisir la littérature et les arts pour réaliser un travail de mémoire, justement ?
Pourquoi choisir la littérature ? Je pense que la littérature... nous donne plus un regard. Au tout début, vous avez parlé des chiffres de l'UNICEF. Comme je l'ai dit, les chiffres sont juste des données. Or que la littérature essaie un peu d'humaniser ces chiffres. Quand on parle d'enfants soldats, on parle des milliers d'enfants soldats dans la guerre, à travers Agou, à travers les personnages comme par exemple Strika, ou bien par exemple Johnny la Foudre, les oraisons funèbres que Biraïma fait. C'est pas juste, comment je vais dire, c'est pas juste des données qu'on nous donne, voilà, mais on nous montre la réalité de ce que vit un enfant à travers la littérature, et non pas que des chiffres, voilà.
Et est-ce qu'il y a d'autres arts qui ont pu représenter cette réalité de l'enfant soldat ?
La photographie, surtout lors de la Première Guerre mondiale aussi. Je pense que la photographie a pas mal joué aussi sur la représentation des enfants soldats.
Et pourquoi ? Parce qu'elle heurte, parce qu'elle montre la réalité telle qu'elle est, peut-être ?
Exact, elle montre la réalité telle qu'elle est, et aussi on voit par exemple des enfants vêtus d'habits qui ne suffisent pas, grands, avec des armes et tout. Je pense que ça heurte vraiment. Et ça donne un peu une impression de... pour le lecteur, ou bien par exemple pour la personne qui voit une photo, il va se forger sa propre image de ce qu'elle voit. Donc je pense que c'est un peu aussi très expressif.
Oui, il y a déjà une forme de contradiction entre l'enfant qui est un enfant, qui
Exactement.
Est innocent, et puis cette uniforme de soldat. Auprès de qui, encore, est-ce qu'il faut visibiliser tous ces événements, toute cette figure de l'enfant soldat qui est encore trop mal connue ?
Déjà dans les médias.
Elle est encore invisibilisée
dans
les médias.
Elle est encore invisibilisée. Déjà, je pense que la plupart des personnes ne savent pas qu'il y a une journée internationale de l'utilisation des enfants soldats, qui est le 12 février. Donc je pense que ce sont ces événements qui devraient être... qu'on devrait beaucoup parler dans les médias et aussi dans les institutions, et aussi pour chaque personne devrait savoir ça.
En parler dans les écoles,
en parler dans les
programmes.
Écoles, les programmes, et aussi dans les mouvements. Voilà.
Les enfants soldats dans la littérature... d'Amadou Kourouma, Saro Ouiwa, Uzo Dinma, Iweala, une figure qui témoigne de la déshumanisation que crée la guerre à travers un langage qui touche l'absurde et presque la perte de sens. Merci à Mustapha Dem pour toutes ses réponses et ses réflexions à propos de cette figure encore trop mal connue. Merci beaucoup.
Merci.
Et merci également à la Bibliothèque Socle qui nous a permis de réaliser cette émission dans leurs locaux. Je vous invite à vous y rendre pour travailler, lire, vous échapper. C'est un endroit propice à la tranquillité, à la sérénité. Donc vraiment, merci beaucoup. Et merci à Louis pour la technique. Tout de suite, c'est le tarot de la cité. Restez à l'écoute et très bonne soirée, très bonne journée sur Campus Grenoble 90.8.